Des hommes? Non. Des femmes? Non. Des robots? Non. Des surhommes? Implacables. Insaisissables. Invincibles. Insensibles. Aux ordres d'une super-organisation criminelle. Impossible. Rien n'est impossible pour
Culture Prohibée.
Bienvenue pour ce nouvel épisode de Culture Prohibée. Culture Prohibée, c'est l'émission hebdomadaire de la culture panette du Ciboulot, coproduite par Radio Graphite, graphite.net, animée par l'équipe des Films de la Gorgone, lesfilmsdelagorgone.fr. Culture Prohibée, c'est aussi un profil Facebook et un podcast disponible sur différentes plateformes. Tous les détails sont sur le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com.
Je suis né passage de la bonne graine, j'en ai pris de la graine et pour longtemps.
Au sommaire aujourd'hui, une spéciale classique, et oui, quelques classiques du cinéma vont égayer l'heure à venir. Enfin, égayer, ça dépend des films. Hein. Donc voilà, alors on va faire un petit focus d'abord sur Marlène Dietrich. Alors, on est un peu en retard pour vous parler de ce coffret qui est sorti un petit moment déjà chez nos amis d'Elephant Film. Mais il nous semblait important d'aborder donc ce coffret Marlène Dietrich, Joseph von Sternberg, Les années Hollywood, qui réunit Cœur brûlé de 1930, Agent X-27 de 31, Shanghai Express de 32, Vénus blonde de 32, L'impératrice rouge de 34 et La femme et le pantin de 35. Et puis on y ajoute également un film, une ressortie chez Rimini Édition hein, de Billy Wilder, mais avec Marlène Dietrich, qui s'appelle La scandaleuse de Berlin. Dans la deuxième et dernière partie de l'émission, on fera un focus sur François Truffaut. On parlera de Tirer sur le pianiste, un film de 1960, de Tir au flanc, 62, qui est un film de 61 et qui est co-réalisé par Truffaut avec son compère Claude de Givray. On parlera aussi de La peau douce, un film de 64, Les deux Anglaises et le continent de 71, La femme d'à côté de 81 et Vivement dimanche de 82. Et tous ces films de François Truffaut sont disponibles chez Carlotta Film. L'équipe de Culture Prohibée remercie Lucie Mautier, Victor Lopez, Jean-Pierre Vasseur et François Villa pour leur aide sur cette émission. Pour causer classique, je suis aujourd'hui accompagné de Damien Demé, dit la bête noire de Compiègne, un archéologue animal en quête de cultures souterraines et oubliées, co-animateur de Projection Perdue, le podcast de la Chimératech disponible sur YouTube. Bonjour Damien.
Salutations à toutes les entités conscientes qui nous écoutent.
Également présent dans ce studio, Thomas Roland, dit le loup-garou Picard, qui chaque nuit de pleine lune rédige de sanglantes chroniques pour RCA. Salut Thomas.
Salut Damien, salut Jérôme et bien évidemment salut à toutes.
Mon cher Damien, toi qui es le plus jeune de cette équipe, tu es venu avec un film, comment dire, lui qui est un peu plus âgé que toi, un film de 1930 avec Marlène Dietrich et Gary Cooper qui s'appelle Cœur brûlé. Un film donc de Joseph von Sternberg qui se passe dans un Maroc occupé militairement par la France et qui raconte un peu l'histoire d'un triangle amoureux quand même, on va dire ça comme ça.
Seulement un chouïa plus âgé que moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que Marlène Dietrich, ça fait partie des actrices dont on entend énormément le nom, en tout cas pour moi. Et je ne m'étais jamais confronté à sa filmographie, encore moins sous la caméra de Joseph von Sternberg. Et donc, Cœur brûlé, c'est vraiment le premier film que j'ai regardé vraiment, en sachant qui elle était et avec qui... Elle le faisait et j'ai l'impression qu'il y a un thème assez récurrent, en tout cas pour certains films de Sternberg, ça va être les histoires d'amour où Dietrich va être la femme au cœur de tout et tout le monde va être follement amoureux d'elle. Et si possible, ajouter une base un peu de pays exotiques et Cœur brûlé, c'est le parfait exemple où on commence justement au Maroc avec justement tout ce qui se passe là-bas. Les Français y sont et ça tombe bien parce que l'un des amants de Dietrich, ça va être un légionnaire à la tête brûlée qui est joué par Gary Cooper. Donc on est dans la bonne zone. On entend aussi parler français, ce qui est assez particulier quand on regarde un ancien film américain en noir et blanc. Ça crée une ambiance assez particulière. Je trouve que justement, ce côté français militaire qui arrive au Maroc, parce qu'on est pendant la conquête du Maroc, ça pose un contexte très intéressant. Et ensuite, on découvre Marlène Dietrich, enchanteuse, dans une sorte, pas un saloon, vu qu'on n'est pas aux États-Unis, mais dans un cabaret où finalement tous les soldats y vont pour se détendre après leur dure journée. Ce qui est intéressant, c'est qu'au départ, je trouve que c'est un triangle amoureux qui est assez classique. On a ce jeune légionnaire qui est l'homme fort ici, mais qui est soldat, donc il n'a pas beaucoup d'argent, face à finalement l'autre qui est plus richissime et qui peut apporter une vie stable à Dietrich. Le truc qui devient intéressant, c'est que plus la relation avance, plus on sent que ça va très mal se passer, en fait. Ce que le film offre, c'est une histoire d'amour déchirante, une histoire d'amour quasi impossible, même si je vous l'ai dit, la base est assez cliché. Et je trouve notamment la fin terrible, surtout sur le dernier plan, on a elle allant dans un désert sans horizon, comme un peu symbole de la quête de son bonheur. Je trouve que le plan, vraiment, il est terrifiant. Alors, le film est en noir et blanc, donc avec des couleurs, je trouve que ça ressortirait incroyablement. Mais je trouve le désespoir dans le dernier plan assez puissant. Et c'est un film que les gens, en tout cas le cinéma, les Oscars de l'époque, ont beaucoup apprécié parce qu'il a été énormément nommé. Ça montre qu'il y a beaucoup de choses qui ont marqué dans le film, notamment la réalisation, l'actrice, qui ont tous été nommés, et aussi les décors. Alors que beaucoup de choses se passent en ville et très peu à l'extérieur, c'est quelque chose qui a beaucoup marqué les gens à ce moment-là.
Moi, je trouve que ce film, en fait, plus qu'une image colonialiste qui serait véhiculée par ce film, c'est comme toujours chez Sternberg, parce que c'est sa muse, vraiment, Dietrich, et ils sont... c'est vraiment... Il y a une relation particulière entre deux, et comme toujours, donc chez ce réalisateur, il y a une réflexion sur la relation amoureuse, et puis le tout au service d'une imagerie qui exalte quand même la sensualité. C'est aussi une parabole de la vie de Sternberg qui est exilé aux USA, et sa relation difficile avec sa muse, dont je parlais à l'instant. Et l'imagerie, elle peut prêter à sourire, tu l'as bien résumé, mais il y a aussi de l'androgynie, il y a du saphisme aussi. Il y a même la tentation de la luxure avec la plèbe à un moment dans le film, qui est quelque chose de sous-jacent, évidemment. Aujourd'hui, on montrerait ça de manière plus frontale, mais qui confère au film une certaine modernité. Moi, je trouve que c'est ce qui est intéressant, en tout cas ici, via la tentative de Sternberg, via le personnage glamour de Dietrich, de décrire un monde polarisé, c'est-à-dire d'un côté un monde, le monde des paillettes, le monde des cabarets, donc un monde glamour. Marlène Dietrich est très glamour. Et de l'autre, un exotisme de pacotille, parce que c'est ce que tu disais un peu, tu parlais des décors et tout, il y a un côté exotisme de pacotille. Au final, on voit un empire en pleine décadence qui naît un peu de ce contraste. Il ne le dit pas frontalement, mais c'est ce qui transparaît, en fait, je trouve, du contraste que tu décrivais dans ta critique. Et en fin de compte, le seul remède au monde qui nous entoure, au monde qui entoure les protagonistes de cette histoire, c'est le monde du spectacle. Je trouve que c'est un beau message, quand même, de la part de Sternberg. Donc, alors, ce n'est pas le meilleur film qu'ils ont fait ensemble, mais c'est un... C'est un film assez passionnant parce qu'il y a toutes les thématiques propres au cinéma de leur relation, du duo Sternberg-Dietrich. Les thématiques de ce Morocco, de ce cœur brûlé, donc on va les retrouver l'année suivante dans Agent X-27, qui est un autre film du coffret édité par Éléphant de Film, avec Marlène Dietrich, Victor McLaglen, dans les rôles principaux. Alors, le film se passe à Vienne, donc s'appelle Agent X-27, mais le titre original est plus parlant, je trouve, Dishonored, c'est-à-dire déshonoré. C'est un titre qui est plus en relation avec le film. Et c'est que le troisième film, en fait, qu'ils font ensemble. Parce que Sternberg, quand il découvre... Marlène Dietrich, elle éclate aux yeux du monde dans L'Ange Bleu. Mais en fait, Morocco, c'est leur deuxième film ensemble. Ils partent ensemble aux USA et il fait des films aux USA. À la base, Marlène Dietrich, c'est même pas la vedette de L'Ange Bleu. C'est Emil Jannings, l'acteur incroyable du Dernier des Hommes de Murnau, qui est au centre normalement de L'Ange Bleu. Mais on ne retient que la performance de Marlène Dietrich. Et là, il nous ramène à Vienne, il nous ramène en Europe. On est au début de la Première Guerre mondiale. Il y a Marie, une jeune femme qui a perdu son homme sur les champs de bataille, qui doit se prostituer pour survivre. On est toujours hein, dans ces thématiques-là. Et il est allé, comment dire, elle est remarquée par le chef des services secrets austro-hongrois et elle est engagée pour servir son pays, pour devenir une sorte de Mata Hari, comme ça, pour user de ses charmes, pour débusquer les espions, pour obtenir des informations sur l'oreiller. Hein, elle va essayer d'aller chercher des informations auprès d'un officier soviétique russe avec lequel elle va avoir une relation un peu particulière, ambiguë. Donc c'est une vision, là c'est pareil, toute, je ne sais pas si ça peut se dire, Sternbergienne, c'est pas facile à dire. Hein. Enfin, c'est une vision à la Sternberg, en tout cas, de la fameuse Mata Hari. Hein. C'est une vision très sexualisée. Hein. On est bien loin de celle qui était assez froide, parce qu'il y avait déjà eu un film sur Mata Hari de George Fitzmaurice, qui était interprété par Greta Garbo, et les films se sortent quasiment en même temps en plus. Donc, et on peut comparer effectivement Greta Garbo, qui était une vamp hein, du cinéma de son époque, et à Garbo, donc la femme fatale inaccessible. Sternberg préfère la blonde iconique, séductrice, tentatrice, sexuellement agressive, de prostituée à agent secret. Sternberg pose la question de la différence entre les deux statuts. Ça, c'est intéressant quand même, parce que d'un côté, on couche pour de l'argent, mais de l'autre, on couche pour obtenir des informations. Dietrich, quand elle est prostituée, en fin de compte, elle est presque exploitée de manière moins vile que quand elle se met à la disposition des services secrets austro-hongrois. En tout cas, c'est la question qu'on peut se poser. Le dialogue qui est entretenu entre le début et la fin du film apporte une réponse particulièrement cruelle, hein, quand même. Et avec ce film, Sternberg modèle encore plus son icône, sa muse. Il impose aussi au studio la présence de Dietrich, hein, parce que ce film est un divertissement pour le grand public. Et Dietrich n'était pas vraiment étiquetée comme actrice grand public. C'était plutôt une actrice capiteuse, une actrice vénéneuse, comme ça. Et il signe une mise en scène d'une grande sécheresse qui peut contraster un peu avec d'autres de ses films. Un film assez implacable, en fait. Il n'y a pas de gras. Il n'y a que de la musique diégétique. Il y a très peu de dialogue pour constituer l'ossature de ce film assez passionnant. Et ce film constitue en fait les prémices d'un enchaînement de chefs-d'œuvre à venir. On sent que là, il était en gestation, Sternberg, et qu'il va trouver sa plénitude à partir donc du prochain film qui est disponible dans ce coffret, du film de 32, qui s'appelle Shanghai Express, donc qui vient donc après Cœur brûlé et Agent X-27. Et donc ce Shanghai Express, mon cher Damien, là, on passe encore une autre dimension dans la filmographie commune Sternberg-Dietrich, parce qu'on peut dire que ces films sont des films de Sternberg, mais aussi des films de Dietrich.
Tu fais bien de parler de fin de gestation, parce que là, il y a quelque chose qui change. Alors, je retrouve des bases pareilles que dans Cœur brûlé, c'est-à-dire que dans Shanghai Express, on va retrouver cet amour impossible qui est sa spécialité. On se retrouve de nouveau en territoire étranger, cette fois en contexte de guerre civile en Chine. On augmente aussi la quantité de personnages qui se retrouvent impliqués dans l'histoire. On a le retour d'un personnage français, donc peut-être qu'il aime bien la France, on ne sait pas. Et là, ce qui est intéressant, c'est que tout va se passer dans un train. Et l'avantage d'un train, c'est que tu as souvent justement cet enjeu de la menace. Est-ce qu'elle est à l'intérieur du train et qu'il ne peut pas s'arrêter? Et ça veut dire qu'on est prisonnier avec la menace à l'intérieur. Ou est-ce que justement, le train est un endroit de protection et dès qu'il s'arrête, la menace arrive? Et tu as cette question qui est posée assez vite. Dès que le train commence à rouler et que finalement, il se retrouve bloqué par des vaches sur la voie, tout simplement. Ici, je trouve qu'elle a un rôle beaucoup plus fort. Alors, j'ai pas vu X-27, mais je trouve que même si elle fait tout de même la demoiselle en détresse, elle a un rôle où je quasiment de... pas de femme fatale, mais c'est quelqu'un qui se laisse vraiment pas marcher sur les pieds. Autant dans Cœur brûlé, il y avait, elle était un peu baladée par le vent, autant ici, elle essaye de prendre position, surtout qu'elle va retrouver un amour de jeunesse qui est à nouveau un soldat, comme quoi elle a peut-être un type dans l'histoire. Et ici, elle va devoir plus ou moins jouer de son corps pour essayer de le faire sortir. Alors, elle n'ira pas jusqu'au bout, mais il y aura quand même cette rumeur qui va la poursuivre. J'ai vu pas mal de personnes faire le lien avec Boule de Suif de Maupassant. Je trouve que c'est assez intéressant comme comparaison, même s'il est beaucoup moins intense que Boule de Suif. Et à nouveau, bah, cette fois, il ne s'y trompe pas. Nouvelle nomination aux Oscars. De nouveau pour meilleur film. Sauf que ici, cette fois, c'est la photo qui repart avec. J'avais déjà parlé des paysages. J'aime bien la représentation du train. Notamment, il y a un plan que j'aime beaucoup. Il avance dans une sorte de ville. C'est assez particulier parce que les immeubles sont vraiment très proches. On a le train qui avance. Bah, c'est le moment où les vaches bloquent le passage. On a le linge qui est suspendu. Ça crée une ambiance très agréable. Ça revient sur ce que je disais un peu avec l'exotisme, mais du coup ça crée d'autres, ça rajoute des éléments justement à cette histoire d'amour, pas juste la déporter ailleurs, mais aussi introduire de nouveaux éléments un peu, je sais pas, il y a un lien, je trouve, que j'aime bien. Généralement on dit en amour à la guerre comme en amour, c'est plus ou moins le lien qu'on a avec Shanghai Express et Cœur brûlé.
Ce Shanghai Express de Joseph von Sternberg, il est inspiré d'un vrai fait divers, hein, qui est survenu en Chine en 1923, où il y a un chef de guerre chinois qui a stoppé le train, le Shanghai-Pékin. Il a pris en otage 25 occidentaux et 300 chinois dans l'attente d'une rançon. Et à partir de ce fait divers, Sternberg, lui, il crée quand même un film d'aventure qui va jouer, tu l'as dit, avec tous les clichés inhérents au genre. C'est très avant-gardiste, en fait, hein, pour l'époque. Dès le début, il y a un superbe travelling. Hein, et à travers ce travelling, Sternberg, il trace tous les traits de ses protagonistes. C'est-à-dire, il type tous ses protagonistes en quelques... Enfin, c'est du grand cinéma, quoi. Voilà. Et puis après, c'est là où c'est très fort. C'est-à-dire qu'on croit avoir situé tous les personnages. Et après, il va tout malaxer, tout triturer dans tous les sens pour brouiller cette caractérisation qu'on avait si bien assimilée dans les premières minutes du film. Il y a une maîtrise formelle, moi, je trouve, qui est hallucinante, hein, parce que tu as parlé du décor, mais tu as des mouvements de caméra, c'est vrai, mais c'est surtout aussi un travail sur le son. Moi, je suis fasciné. J'ai découvert dans ces films-là de Sternberg, en fait, qu'il y avait un gros travail sur le son. Et en plus, c'est fait pour faire avancer l'intrigue. C'est pas du gadget. Et puis, il y a... moi, je trouve que, tu l'as dit, hein, mais l'un de ses rôles les plus tragiques, les plus poignants, Marlène Dietrich, dans ce film. Et sans doute... Alors, parler de Boule de Suif, moi je ferais la comparaison avec un film dont on va nous parler tout à l'heure, La Mythoma, avec La Scandaleuse de Berlin, de Billy Wilder. Vraiment, pour moi, les deux films dialoguent. Et en tout cas, pour moi, c'est un des films les plus réussis du duo. Pour moi, c'est un chef-d'œuvre. Et juste après ce Shanghai Express, mon cher Damien, Joseph von Sternberg et Marlène Dietrich et... petit ajout classieux, Cary Grant, vont se retrouver pour Vénus Blonde. Alors pour le coup, la traduction est un blonde Vénus en anglais, Vénus Blonde chez nous. Voilà. Et encore une fois, on va se retrouver dans l'histoire d'une danseuse de cabaret qui vient d'Allemagne, tout ça. Enfin, on va se retrouver encore dans cet univers propre au duo.
Vénus Blonde, à mes yeux, c'est le meilleur. Parce que la façon dont il va tisser son drame est très particulier. Jusqu'à présent, on a un peu... alors, on retrouve des choses, c'est-à-dire Dietrich, bien évidemment. Mais généralement, c'est un amour perdu qui revient. Et en plus, il y a un autre amour qui propose une stabilité qui se retrouve. Là, c'est différent. C'est-à-dire que l'introduction nous montre la rencontre avec la personne avec qui elle va être en couple. Très vite, elle est en couple avec. En plus, ils ont un enfant. Même si la rencontre est assez particulière et que pour moi c'est plus ou moins un red flag. Mais ici je trouve qu'il y a un certain renouveau justement dans le scénario parce que son mari est malade, notamment parce que c'est un scientifique qui est tombé malade à cause de ses expériences. Il a besoin de se faire soigner, il a besoin d'argent. Et donc elle qui était dans le monde du spectacle propose d'y retourner pour essayer de gagner de l'argent afin de pouvoir soigner son mari. Donc elle y va en acte d'amour. Et alors qu'elle se relance dans cet univers de spectacle pas très folichon, mais en faisant son maximum pour sauver son homme, elle va rencontrer un homme riche qui va proposer tout simplement de payer les soins de son mari à condition qu'ils puissent passer un peu de temps ensemble. Et de fil en aiguille, en fait, elle va se détourner de son mari pour finalement apprécier cet homme du spectacle. Et le moment où le film, à mes yeux, prend de l'envergure, c'est justement le moment où le mari revient et qu'il comprend que sa femme l'a trompé et que il s'avère être extrêmement violent et qu'elle est obligée de prendre la fuite avec son enfant. Et ça, à partir du moment où il y a la fuite, on passe finalement d'un drame j'oserais le dire, même si c'est pas le cas, un peu un thriller avec son mari qui essaye de la retrouver, lui avec son enfant, et c'est une fuite qui est très dure parce qu'elle va trouver de l'argent afin de nourrir son enfant jusqu'à la scène de déchirement où elle est obligée de le laisser retourner avec son mari pour que lui puisse vivre alors qu'elle ne veut pas y retourner. Je trouve qu'au niveau des relations humaines, c'est l'un de ses plus sombres, même si la fin ouvre un peu vers l'optimisme. Et juste avant, je parlais de Boule de Suif et de Maupassant. Ici, j'ai plus l'impression d'avoir affaire à du Zola, ce qui est un peu drôle parce que Joseph von Sternberg, son premier film, il s'appelle L'Assommeur, et à chaque fois que je lis le nom de son film, je pense automatiquement à L'Assommoir, même s'il n'y a aucun lien entre les deux. Mais je trouve qu'on retrouve finalement un truc identique un peu à Zola, c'est-à-dire qu'on a un passage de l'émergence du bonheur avec l'introduction, la rencontre, à finalement une chute vers la noirceur et le désespoir.
Ouais, tu y vois du nana de Zola, mais Zola c'était très moderne, comme ce film est très moderne. Moi parce que cette histoire, cette Hélène là, c'est une femme libre en fait, et c'est une femme qui se laisse enfermer dans aucun stéréotype, et surtout pas ceux que veulent imposer les hommes. Et puis c'est pas dit ouvertement dans le film, mais Dietrich, elle est aussi victime de sa volonté de ne pas se plier au patriarcat en fait. C'est vraiment l'histoire du film. J'extrapole pas, hein, c'est vraiment ça que raconte le film. Et elle en vient à se prostituer pour conserver la garde de son fils. Enfin, subvenir à ses besoins et conserver la garde de son fils. En gros, pour dire à quel point le film est audacieux, c'est-à-dire le propos, c'est quand même de dire que la prostitution est un mal nécessaire pour assurer son devoir maternel. On est en 1932, il fallait oser. Hein, même si c'est la réalité de certainement, malheureusement, plein de femmes qui étaient contraintes. Tu parlais de Red Flag tout à l'heure, terme aujourd'hui à la mode, mais cette oppression masculine et tout ça, oui, qui est présente, qui est toujours présente hein, dans le cinéma de Sternberg. Et je trouve que ça confère au film une grande modernité. Alors, qui fait que. Alors, ça, le film, il a vraiment déplu à l'époque. Il n'a pas rencontré le succès. Ça faut dire que ça renvoie une image de l'humanité qui est pas très qui fait pas rêver quoi. Et la modernité de son propos, sans doute la pertinence de sa mise en scène, il y a une utilisation extraordinaire des gros plans dans le film, font pour moi en tout cas de cette Vénus blonde, alors, je sais pas si c'est leur meilleure collaboration, moi je pencherais plutôt sur le précédent parce que je trouve qu'en termes de mise en scène il est plus abouti, mais je pense quand même que c'est un grand film dans l'histoire du cinéma et qu'il est à redécouvrir, et que donc ce Vénus blonde, grâce à ce coffret édité par Éléphant de Film, on peut le voir et le voir dans d'excellentes conditions. Mais leur collaboration ne va pas s'arrêter là, elle va se prolonger encore l'espace de quelques films, mon cher Thomas, en particulier en 1934 avec cette impératrice rouge, qui évidemment qui dit impératrice, ça renvoie à la Russie, voilà. Enfin bon, bref. Et Thomas va nous expliquer tout cela avec l'acuité qui le caractérise, bien évidemment. Vous écoutez Culture Poignée.
La blondeur, on passe à la couleur rouge avec cette sixième collaboration entre le cinéaste d'origine autrichienne et puis la comédienne allemande. Le film retrace l'ascension de la femme qui deviendra Catherine II de Russie. Et oui, on est bien en Russie. Alors que le sang des Romanov ne coule pas dans ses veines. Elle est d'abord l'épouse de Pierre III de Russie qui succède à l'impératrice Elisabeth, qui, elle, est décrite comme une femme autoritaire dans le film. Catherine II prendra le pouvoir par le biais d'un coup d'État, se sentant alors menacée par son mari, qui lui est dépeint comme un attardé mental aussi capricieux que dangereux. Certains aspects de l'histoire de Catherine II restent un sujet de discorde pour les historiens qui n'arrivent pas à se mettre d'accord à propos de certains événements, comme la mort de Pierre III. Ce que ne savaient pas les historiens, c'est que Catherine II ressemble à Marlène Dietrich. En se basant sur le journal de Catherine II, femme cultivée qui écrivait beaucoup, Joseph von Sternberg fait donc le choix de ne s'attarder que sur les années d'apprentissage de la jeune femme. Fille d'un officier de l'armée prusse, Sophie Frédérique Augusta d'Anhalt-Zerbst est choisie pour être l'épouse de Pierre III, comme je l'ai précédemment dit. Sa rencontre avec le jeune homme, qui semble surtout soucieux de jouer avec ses petits soldats, de s'acoquiner avec Elisabeth Romanovna Vorontsova, une jeune femme tenue de le divertir, bridée par l'acariâtre impératrice Elisabeth, la future Catherine II trouve du réconfort dans les bras d'un officier qui la décevra aussitôt. Pour Joseph von Sternberg, le pouvoir passe par la séduction et il signe une œuvre foisonnante à la caméra virevoltante pour filmer les décors surchargés de ce palais russe, guidé par d'étranges statues de vieillards et où les portes sont immenses. La surenchère russe orthodoxe contre l'innocence d'une jeune femme. Mais elle saura faire face, comme le traduit la mise en scène dynamique, sensible et voluptueuse du cinéaste. L'impératrice rouge ne s'impose pas seulement comme le récit romancé d'une jeune femme en dame de pouvoir, mais aussi sur sa transformation, son passage à l'âge adulte, sur le pouvoir lui-même, en particulier sur les hommes et la manipulation. Film d'une grande modernité, tant dans sa forme que dans son fond, l'impératrice rouge fait preuve d'un esthétisme de tous les instants et d'une grande sensualité, grâce à la direction de la photographie signée Bert Glennon, complice entre autres de John Ford et de Delmer Davis, sans toutefois exclure une violence morale et graphique. Évidemment, Marlène Dietrich domine la distribution et campe avec détermination une femme d'abord naïve qui devient alors une femme sûre d'elle-même, de son ascendance sur les hommes. Encore une fois, les historiens ne sont pas d'accord sur le nombre d'amants de la souveraine et de la place qu'elle occupe au sein de la société. Pour autant, si aujourd'hui le film paraît féministe de par la modernité du traitement de son sujet, il serait quand même malvenu de lui faire un procès en wokisme.
Eh oui, le wokisme, cette étrange maladie que seules certaines rédactions voient fleurir dans nos contrées, je ne sais pas d'où ça sort. Mais en tout cas, moi je trouve qu'effectivement, Thomas, tu l'as bien souligné, on est encore une fois dans un propos très moderne, hein, puisqu'effectivement, ce personnage de Marlène Dietrich, il devient séducteur au fur et à mesure que son pouvoir progresse. Donc la séduction et le pouvoir sont intimement liés. Là aussi, c'est un propos plutôt moderne en vérité, hein, ce qui pose des questions du coup sur la nature même de ce qu'est la séduction. Hein, qu'est-ce qui est séduisant ? Bon, après, Marlène Dietrich, elle a tous les atouts pour elle, mais en vrai, qu'est-ce qui est séduisant ? Qu'est-ce qui fait qu'on va trouver un tel séduisant parce qu'il est une femme ou un homme de pouvoir ? C'est des questions assez profondes. Et en tout cas, tu as parlé de cette sixième collaboration. La collaboration ne s'arrête pas là. Hein. Et elle continue, elle se termine avec La femme et le pantin, un film de 35. Toujours évidemment avec Marlène Dietrich, toujours réalisé par Sternberg. Et qui se passe, cette fois-ci, on est à Séville, en Andalousie, au début du XXe siècle, et il y a la belle Concha Pérez qui fait tourner la tête de la gente masculine, et il y a le fougueux révolutionnaire Antonio Galván et son vieil ami Don Pasquale qui vont s'affronter pour gagner les faveurs de la jeune femme, alors que c'est le carnaval, et que le carnaval, ça énerve un peu tout le monde. Hein. Voilà, carnaval, alcool, belles femmes, hommes dans leurs plus beaux apparats, voilà, attention, attention. Donc, septième film, dernier film de cette collaboration entre Sternberg et sa muse, Marlène Dietrich. Film assez gonflé, puisqu'on adapte Pierre Louis. Alors, Pierre Louis, c'est un auteur sulfureux quand même, hein, on va dire les choses. Et on ajoute le cadre espagnol, ce folklore andalou. Donc on peut faire le lien, en fait. Hein, on a fait le Maroc, on a fait la Chine du Shanghai Express. On a été avec Thomas dans la Russie, la Russie impériale. Et là, on a donc une adaptation de Pierre Louis, qui est un grand érotomane devant l'éternel. Il y a aussi un art consommé de la provocation que les deux commencent à bien maîtriser, hein, maintenant, puisque cette histoire de femme séduisante qui fait tourner la tête des hommes avec deux hommes qui se déchire pour elle, c'est un peu l'histoire de la quasi-totalité des films de Sternberg avec Marlène Dietrich. C'est une actrice caméléon. Elle ne cesse de se transformer tout au long de l'intrigue, que ce soit physiquement ou mentalement. Donc ça donne un film passionnant. On voit clairement un réalisateur qui regarde sa muse. Et pourtant, c'est sans doute aussi le moins bon film, en fait, de toute leur collaboration, parce qu'on est aussi quelque part un peu à bout de souffle, et pas vraiment, c'est pas Marlène Dietrich qui est à bout de souffle, on a l'impression qu'en fait, Sternberg perd la partie, que le metteur en scène, le formaliste formidable, s'efface, et il donne les clés du film à sa muse, et l'élève dépasse le maître. Et de ce, comment dire, de ce feu d'artifice à la gloire d'une icône du 7e art, on arrive à quelque chose qui peut évoquer le beau, qui peut évoquer la joie, mais qui évoque aussi un cinéaste qui rend les armes, en fait, et qui s'incline devant son actrice, devant sa muse, qui aura quand même été sa complice sur sept films. Alors La femme et le pantin, attention, c'est pas un mauvais film, c'est un très bon film, hein. Mais comparativement aux autres, on sent un essoufflement, on sent que Sternberg, il est au bout de cette collaboration, lui-même le sent, et que Marlène Dietrich a gagné la partie, et ça donne un côté presque, il y a un petit côté étonnamment en sourdine assez amer dans le film, qui pourtant est plutôt un film qui va sur le terrain de la joie que du drame, hein. Voilà. Donc c'est un film hybride un peu particulier dans cette collaboration, donc qui rejoint toute cette collection de films là qui est publiée dans ce coffret Marlène Dietrich, Joseph von Sternberg, Les années Hollywood par Éléphant de film, donc Cœur brûlé, Agent X-27, Shanghai Express, Vénus blonde, L'impératrice rouge et La femme et le pantin. Donc tous ces films qu'on vous conseille vivement et donc, qui sont disponibles chez Éléphant de film et qui ont singulièrement marqué l'histoire du cinéma, et ne serait-ce que pour redécouvrir un metteur en scène brillant, Joseph von Sternberg, et une actrice extraordinaire, donc Marlène Dietrich.
You must see A Foreign Affair. It is so romantic.
That's a really good picture. Awfully funny, you know.
Don't miss A Foreign Affair. Such a loving, such a laughing.
Very funny picture. Oh yes, very funny.
Marlène Dietrich, mon cher Thomas, qui n'a pas tourné que pour Joseph von Sternberg. Bon, après, quand elle ne tournait pas pour un des meilleurs cinéastes du monde, elle allait tourner pour un autre des meilleurs cinéastes du monde, en l'occurrence la Billy Wilder, dans une œuvre. On a déjà un peu parlé dans l'émission, parce que c'est une ressortie de Chéri Mini. Elle ressort dans une copie encore de meilleure qualité que la précédente. Et A Foreign Affair, une étrange affaire, donc La scandaleuse de Berlin, un film de 48. Un film donc de Billy Wilder avec Jean Arthur, Marlène Dietrich, John Lund, Millard Mitchell, enfin bref, avec une très belle distribution. Un film qui a la particularité de se dérouler donc dans une Allemagne en reconstruction, dans un contexte très particulier quand même.
Oui, ça se déroule dans les ruines de Berlin, ni plus ni moins, juste après la guerre, hein, où un officier américain en fait entretient une relation amoureuse avec une ancienne nazie, une jeune femme qui était proche du pouvoir, voire même d'Hitler, et qu'il cache pour pas qu'elle soit... parce qu'ils sont dans une logique de dénazification, hein, les Américains. Et donc, à partir de là, Billy Wilder va broder une espèce de comédie romantique avec un petit peu de vaudeville, parce qu'il y a aussi une autre jeune femme qui va débarquer, qui, elle, a l'esprit quand même un petit peu plus... pointue que les autres, et puis elle va flairer le poteau rose, quoi. Et donc, le scénario est sujet à plusieurs quiproquos, puis des scènes de comédie aussi, hein. Il y a deux soldats américains qui sont là un peu pour détendre l'atmosphère. Ouais. Et donc, finalement, cette comédie romantique avec ses accents de vaudeville, finalement, c'est un film très politique, hein. C'est un film qui dénonce un peu l'ingérence américaine aussi, quelque part, hein, juste après la guerre, et aussi les petits petits arrangements qu'ils ont pu faire avec certaines personnalités nazies, hein, comme on l'a su plus tard, donc à travers cette histoire d'amour entre cet officier américain et cette jeune femme manipulatrice qui, en fait, veut juste profiter de cet officier américain qui lui ramène des choses du marché noir. Il y a quelque chose sur le déclassement, parce que du fait que Berlin est en ruine et puis qu'elle, elle quand même fréquentait les hautes instances nazies, hein, elle ne veut pas perdre non plus sa superbe. Et donc, en même temps qu'elle chante dans un cabaret, elle continue d'entretenir cette relation avec cet officier américain pour pouvoir profiter de ses largesses.
Oui, et ça donne un personnage, parce que Billy Wilder a une relation particulière en plus, parce qu'il est question aussi de retrouver des disparus, savoir s'ils sont encore vivants, des proches à lui, de sa famille. Quand il se rend donc en Allemagne, il fait le film, mais il fait autre chose aussi en même temps. C'est quelque chose d'assez troublant, d'assez touchant. Et ce personnage de Marlène Dietrich, il est aussi très troublant, parce qu'il est... C'est la grande intelligence de Billy Wilder, en fait. C'est pas un personnage noir ou un personnage blanc. C'est un personnage qui est dans des zones grises. Et ça confère au film... De par le jeu aussi de Marlène Dietrich, ça confère au film une identité bien particulière. C'est un film vraiment singulier, hein, sur cette Allemagne en reconstruction, sur la dénazification, sur le plan Marshall. C'est un film vraiment très particulier, puisque les Américains ne sont pas montrés quand même sous leur meilleur jour. C'est un film américain, enfin, c'est un film produit par les États-Unis. Et on y voit quand même le comportement, enfin, des Américains qui n'est pas toujours exemplaire, hein, y compris de soldats sur place, tout ça. Il y a des choses qui nous sont montrées. C'est un film assez engagé, en fin de compte, hein, de Billy Wilder, et qui a toujours ce côté doux amer propre au réalisateur de La Garçonnière. La Rimini donc ressort ce film, La Scandaleuse de Berlin, et avait sorti aussi beaucoup de films, hein, de Billy Wilder. Je pense que Jean-Pierre Vasseur, le patron de Rimini, il est fan de Billy Wilder, mais enfin, qui aime le cinéma est fan de Billy Wilder de toute façon. Et donc là, le film a ce site particulier que il a toujours, il n'est pas manichéen, et ça c'est hyper intéressant. Parce qu'il y a quand même beaucoup de films très manichéens à l'époque, hein, qui arrivent sur les écrans. Et donc, voilà, on vous l'avait déjà conseillé lors de la sortie précédente, on vous le reconseille aujourd'hui, c'est La Scandaleuse de Berlin. C'est un film de 48 de Billy Wilder avec Marlène Dietrich, et c'est donc disponible chez Rimini Édition. Écoutez Culture Prohibée, spécial classique. Je vais passer du vieil Hollywood à la nouvelle vague dans la dernière partie de cette émission pour vous parler d'un cinéaste alors que moi j'aime beaucoup. Je sais qu'il y a débat, hein, chez les cinéphiles. On est plus Godard, on est plus Truffaut. Bon, moi je suis définitivement Truffaut, hein, ça, il n'y a pas de mystère. Je crois que les gens qui écoutent l'émission le savent maintenant. Aussi parce que Truffaut était lui aussi d'ailleurs, un peu comme Marlène Dietrich dans tous ses films, quelqu'un d'ambigu sur pas mal de points. Voilà. Mais c'est aussi un cinéaste que j'aime beaucoup. Pourquoi ? Parce que chez Truffaut, il y a l'enfant. Ouais. Il y a l'humanité de l'enfance. Il y a ça qui n'est pas pour moi présent. Par exemple chez Godard, bon, après ce sont les deux grands qui ont émergé de cette nouvelle vague. Pour peu qu'on considère la nouvelle vague comme quelque chose d'homogène, ce qui n'est pas le cas, parce qu'il y a aussi Chabrol, il y en a d'autres. Et là, on a Carlotta qui ressort, qui a ressorti ces derniers mois plein de films, dont une rareté quand même, donc je suis assez content de pouvoir vous en parler, qui a ressorti donc quelques films de François Truffaut. Il y a Tiré sur le pianiste avec Aznavour. Alors bon, je vais vous dire, c'est c'est un de mes films de chevet parce qu'il y a, une scène, je crois que c'est une des rares scènes d'ailleurs avec une pointe d'érotisme dans le cinéma de Truffaut qui n'était pas très doué pour faire ça, avec Michel Mercier. Et Michel Mercier, c'est comment dire, une actrice que j'aime beaucoup. Voilà. Et donc, découverte lors de ma plus tendre enfance dans Les Angéliques, Marquise des Anges. Alors, ça vaut ce que ça vaut en termes de cinéma. Mais Michel, moi, j'étais amoureux d'elle quand j'avais 6 ans, mais un truc de fou, quoi. Voilà, donc tout cela en tout bien, tout honneur, bien sûr, totalement platonique à 6 ans. Hein, voilà, donc et là, on la voit dans ce film-là qui est une, comment dire, un des personnages qui peuple l'univers de Charles Aznavour, de ce pianiste de bar, en fait, qui en fait joue sous le nom de Charlie Kohler, mais qui s'appelle en vrai Édouard Saroyan, et qui a connu, en fait, quand il s'appelait Édouard Saroyan, la renommée, et il a changé d'identité après la défenestration de sa compagne. Et comment se passait trouble, il va être ramené au devant de l'actualité, on va dire, dans l'existence de Charlie, hein, par l'intrusion de son frère, qui est traqué par deux bras cassés, on peut dire ça comme ça, hein, Ernest et Momo. Et on va avoir là Truffaut qui adapte David Goudis. Alors, Truffaut va souvent, malgré tout, quand on regarde bien sa filmo, va souvent aller chercher l'inspiration du côté des auteurs de romans noirs, hein, La Sirène du Mississippi, La mariée était en noir. Il va souvent aller, il va pas aller dans le patrimoine français. Je pense que c'était aussi un lecteur de la série noire, hein, il aimait bien la série noire. Et avec ce film, tiré sur le pianiste, il va essayer de retrouver le côté un peu truculent des dialogues, qui était souvent dû d'ailleurs au traducteur, qui n'était pas vraiment dans les, pas toujours en tout cas dans les romans originaux, et puis surtout le rythme et les ruptures de ton. Si mon introduction tout à l'heure a pu vous paraître libidineuse, ce n'était absolument pas le but, mais c'était surtout une mise en abîme envers le mystère Truffaut, hein, lui qui ne cessera de mettre en scène des inhibés, on va dire, dans sa filmographie, entouré d'obsédés sexuels. Car oui, Charlie, donc alias Aznavour, n'est qu'un double du cinéaste, en vérité. Même si dans la forme, il essaie de se rapprocher de la stylisation de l'écriture propre à la hard-boiled school de la série noire, il nous livre en fait un film où on a là face à nous ce pianiste, c'est un Antoine Douanel, en fait, talentueux, à la destinée tragique. Donc c'est un film vraiment singulier dans sa carrière parce qu'il est très expérimental dans sa forme. Et il est très différent du reste de la filmo de Truffaut, quand même, hein, il faut bien le dire. Donc, malgré tout, avec Tiré sur le pianiste, Truffaut réussit l'exploit de se réapproprier l'univers de Goudis sans pour autant trahir ses volontés autorisantes. Il est aussi bien aidé, faut bien le dire, par une BO que je trouve formidable de Georges Delerue. Pareil, pas mauvais comme compositeur, comme musicien. Et il y a pas mal de choses très intéressante dans les bonus de cette édition Carlotta, mais il y a un bonus que je trouve très intéressant, c'est un extrait de Étoile, Étoile, de 1982, réalisé par Robert Réa, dans lequel François Truffaut parle de David Goudis par François Truffaut. C'est un entretien mené par François Guérif, on ne peut pas faire mieux, hein, le papa de Rivage Noir, et il explique pourquoi il a choisi Goudis, il a choisi de le porter à l'écran. Alors tout donc indispensable, hein, voilà, comme tous les films de Truffaut. Le suivant, c'est un film plus anecdotique. C'est une comédie, alors, que je voulais voir depuis longtemps. Ah, je suis presque un peu déçu, en fait, pour tout vous dire. J'ai trop fantasmé sur ce film, qui s'appelle Tir au flanc 62. Alors, c'est un film de Claude de Givray. Alors, Claude de Givray, on avait parlé de lui, puisque Carlotta est un éditeur, comme je vous le dis, hein, régulièrement, qui est un vrai éditeur, donc, et qui est au centre du livre Claude de Givray, L'homme qui venait de la nouvelle vague, qui est donc sorti chez Carlotta Film, et livre de Frédéric Taupin, Frédéric au féminin, et le comment dire, On y parlait beaucoup de ce film, alors parce qu'il a tourné beaucoup autour de la nouvelle vague, Claude de Givray, pour terminer par s'occuper de la fiction sur TF1. D'ailleurs, je crois même que c'est... Enfin, je crois pas, je suis sûr, c'est le créateur de Navarro, par exemple. Voilà. Donc c'est assez rigolo. Qui a modernisé la fiction policière sur le petit écran à l'époque. Ça peut paraître aujourd'hui dépassé complètement, mais bon, en tout cas, à l'époque, c'était plutôt original. Et là, en fait, c'est ça, c'est un film, mais alors c'est tout bête, hein. C'est un vrai film de comique troupier. C'est très, très étonnant. Jean Leroy de la Grignotière, jeune aristocrate oisif et désinvolte, se voit contraint d'effectuer son service militaire, car oui, les jeunes, avant, on était obligés de faire l'armée. Eh oui, à l'époque, c'était plus long, c'était 18 mois, là. Il est incorporé, peut-être 2 ans d'ailleurs, à l'époque du film, incorporé dans un régiment, Jean détonne par ses bonnes manières et sa légèreté fantaisiste, et avec l'aide de Joseph Vidauban, le chauffeur de sa tante, enrôlé à ses côtés, Jean tente par tous les moyens de se détourner de ses obligations, créant une série de situations tour à tour comiques et burlesques. Alors, bon, un film... très étonnant, hein, donc le film de Claude de Givray. Il est co-réalisé par François Truffaut, qui est venu aider son ami fidèle, parce que Claude de Givray a beaucoup travaillé sur les films de Truffaut. Hein. Et le film présente quand même un casting assez dingue. On y retrouve Serge Corbert, qui réalisera des films. On y retrouve Bernadette Lafont, qui affole tous les hommes du régiment, évidemment. On y retrouve François Truffaut, lui-même. On y retrouve Pierre Etex, le fameux Pierre Etex, l'ancêtre un peu de Pierre Richard. Hein. Et on y retrouve Rissé Barrier, le chansonnier, que des millions de spermatozoïdes connaissent bien. Ceux qui ont la référence comprendront. On y voit Jacques Balutin et sa voix inimitable. Et puis un tout jeune Cabu aussi dans ce film qui sent bon la... Comment dire qui sent bon le grand moment de détente que se sont accordés tous ces comédiens, tous ces gens plutôt intellectuels là et qui nous font donc un film de comique troupier, hein, voilà, avec ce casting donc très improbable et très cahier du cinéma en même temps. C'est très très étonnant. Bon, c'est charmant, évidemment. Alors, bien loin de la version muette de Renoir, de 28, hein. C'est un film avant tout de Claude de Givray, mais qui a été donc un petit peu aidé par François Truffaut. Ça s'appelle « Tir au flanc 62 ». Et puis Carlotta a fait un coffret 5 héroïnes de François Truffaut, un coffret qui contient, bon... des films moi je vous en ai déjà pas mal parlé dans l'émission, mais ce coffret contient entre autres La peau douce, avec Jean de Sailly, Françoise d'Orléac, sans doute le plus beau rôle, l'un des plus beaux rôles en tout cas de Françoise d'Orléac au cinéma, si ce n'est son plus beau rôle. C'est l'histoire d'un écrivain à succès, qui est directeur d'une revue littéraire, dont le mariage est bon, bas de l'aile, et qui va rencontrer donc une hôtesse de l'air, et qui va avoir une liaison avec elle à Lisbonne, puis ça va perdurer. Et c'est un film passionnant, parce que c'est un film, moi, que je trouve très lugubre. Tant dans sa trivialité que dans sa description du banal. Alors ça peut désamorcer, hein. Ça peut faire fuir peut-être un peu les spectateurs, mais pour moi c'est l'un des plus beaux films de son auteur, qui est porté par 2 actrices sublimes, c'est-à-dire Françoise d'Orléac, qui fait la maîtresse, hein, qui fait cette hôtesse de l'air, et Nelly Benedetti, qui fait l'épouse légitime. Et la mise en scène est extraordinaire, moi, je trouve. En particulier lors des scènes charnelles, qui se révèlent, en fin de compte, très hitchcockiennes. Hein. Truffaut est vraiment obsédé par Alfred Hitchcock. Ça paraît évident. Et même si, pour moi, hein, le final ne fonctionne pas complètement, je trouve le film vraiment passionnant. Comme autre film de ce catalogue, très singulier, là c'est pareil, dans la filmographie de Truffaut, Les deux Anglaises et le continent, avec Jean-Pierre Léaud, Philippe Léotard, Kika Markham et Stacy Tendler. C'est l'histoire de Anne, une jeune Anglaise qui rencontre Claude, qu'elle présente à sa sœur Muriel. Et après deux années où le trio mène une vie faite de complicité et de bonheur partagé, Anne et Muriel s'éprennent toutes deux de leur compagnon. Et c'est une nouvelle adaptation par François Truffaut d'un roman d'Henri-Pierre Rocher qui, comment dire, avait fait déjà Jules et Jim. Donc le film a été un vrai fiasco à l'époque, qui a été très mitigé, y compris de la critique. Le film a même droit, je crois que c'est un cas unique dans la carrière de Truffaut, un autre montage pour tenter de trouver son public. Et Truffaut va très 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 mal vivre cet échec, parce que lui, il considère le film, dans son montage originel, comme l'un de ses meilleurs films. Voilà. Et c'est évidemment les deux Anglaises comme Jules et Jim, c'est les comment dire, un film sur un triangle amoureux. Hein. Et donc il y a un Français, Claude, et ses deux sœurs Anglaises, et il y a ce triangle amoureux qui se concrétise là, sous nos yeux. Et autant dans Jules et Jim, il y avait ce côté, comment dire, très romantique et très aussi très violent, très rythmé, il y avait la nécessité de la relation dans l'urgence, comme ça et tout. Là, on est sur quelque chose de beaucoup plus torturé. Et surtout, Truffaut met en scène le sentiment amoureux dans ce qu'il peut avoir, enfin, dans sa physicalité, c'est-à-dire dans quelque chose d'assez dur, en fait, d'assez violent, qui contraste avec son image. On lui a souvent accolé des romantiques. C'était un homme très torturé. Il suffit de lire ses correspondances. Et là, on a aussi un film qui parle de la manière. C'est un film. On a souvent aussi caricaturé Truffaut comme un homme qui comprenait pas les femmes. Je suis pas du tout d'accord, mais alors pas du tout avec ça. Et là, on a un film qui, en filigrane, dénonce clairement la manière dont on éduquait sexuellement les jeunes femmes anglaises au début du XXe siècle. Donc, on a vraiment un film sur ce qu'est le sentiment amoureux, et avec une photo incroyable, parce que c'est presque onirique comme film. Alors la photo, c'est Nestor Almendros, hein, celui qui fait en 78 celle des Moissons du ciel de Terrence Malick. Et ce film sur la violence des sentiments amoureux utilise le contraste à tous les instants, alors entre la beauté plastique du film et la retenue liée à cette éducation anglaise du début du XXe siècle. Et moi, je trouve que, à l'image en fait de La Chambre verte, par exemple, qui est un film de Truffaut que j'aime beaucoup, je trouve que ça, c'est l'autre grand film de Truffaut à redécouvrir, qui est quand même un peu tombé dans l'oubli, même de la part des Truffaldiens. Et je vais laisser la parole pour les deux derniers films de ce coffret à mon ami Damien, qui va vous causer de deux films, alors l'un de 81, l'autre de 83, La femme d'à côté, avec Gérard Depardieu et Fanny Ardant, et puis de l'autre côté, toujours avec Fanny Ardant, mais cette fois-ci avec Jean-Louis Trintignant, Vivement dimanche.
Finalement, je fais la fin de carrière de Truffaut, avec deux castings qui sont portés par leurs acteurs, et qui sont vraiment flamboyants. La femme d'à côté, déjà le contexte de base est intense, c'est-à-dire qu'on a deux ex qui vivent face à face suite à un coup du sort. L'homme, c'est vraiment l'homme bon, quoi, sous tout rapport, dont la vue de son ex va venir en fait le troubler et va faire basculer la vie de cet homme. En tout cas, le film le met surtout en avant de ce point de vue-là. Et leur relation va devenir toxique, elle va devenir de plus en plus intense et au fur et à mesure, elle va devenir de plus en plus toxique. Ce que j'aime beaucoup, c'est que ça se passe à Grenoble et ça montre un peu la vie bourgeoise, grenobloise des années 80, vu que le film date du début des années 80. Mais c'est un film où justement la folie de ces personnages et l'intensité montent au fur et à mesure. C'est un film qui est extrêmement sensoriel en fait dans la façon dont il présente la relation entre les deux, et c'est un film qui offre une fin que je trouve incroyable. En fait, c'est un excellent point d'exclamation à la fin du film avec ce qui arrive et l'implication de la police. Je veux pas en dire trop pour éviter de gâcher la surprise à ceux qui ne l'auraient pas vu, même si je pense que La femme d'à côté de Truffaut, énormément de personnes l'ont déjà vu, mais je trouve que la fin est quelque chose d'extrêmement moderne, peut-être problématique, mais qui fonctionne extrêmement bien. Et ensuite, on a de nouveau un duo avec Vivement Dimanche, comme tu l'as dit, Jérôme, où on retrouve Trintignant et Ardant. D'ailleurs, Ardant, je n'avais pas vu beaucoup de films d'elle, mais avec Sois Caméra de Truffaut, je la trouve exceptionnelle, surtout dans La Femme d'à côté. Ici, dans Vivement Dimanche, ce qui est intéressant, c'est qu'on a un film en noir et blanc, et c'est normal, c'est parce qu'il reprend un peu le style des films noirs, en fait. Il le parodie quasiment, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on a une enquête policière et cette fois, ben, on ne suit pas la police en train de faire l'enquête, on suit la personne qu'on suppose être soit le coupable qui a commis le crime, soit le premier suspect accompagné de sa secrétaire qui l'aide pour s'en sortir. Tu as parlé du fait qu'il avait fait beaucoup d'adaptations et j'ai vu que Vivement Dimanche, c'était aussi l'adaptation d'un roman qui s'appelle The Long Saturday Night. Et c'est normal, c'est parce qu'aussi l'unité de temps est très courte, c'est pas sur quelques jours. Les policiers sont certains que Trintignant a fait le coup. Alors, de base, ils pensent pas qu'il a fait le coup, mais ils pensent qu'il est impliqué. Donc, ils essayent de le cuisiner. Et derrière, il y a un deuxième corps qui va s'ajouter, qui est trop proche de lui. Et c'est là où sa secrétaire intervient. Il va l'aider à faire l'enquête. Ce que j'aime bien, c'est que le film démarre extrêmement vite. Et il y a une relation entre Trintignant et Ardant qui est très sympathique parce qu'une tension qui est présente dans le film, c'est de savoir si oui ou non c'est lui le coupable. Et derrière, il y a Ardant qui est attiré et qui le séduit. Et du coup, quand la tension de est-ce que c'est le tueur disparaît, on a une nouvelle tension, plutôt un jeu de séduction qui à ce moment-là se met en place et qui est très sympathique et qui apporte des instants comiques à l'intérieur du film. Et aussi, là, le final est extrêmement chouette, ce qui me fait dire que Truffaut sait finir ses films à la perfection.
Je rappelle que ce coffret qui contient La Peau Douce, Les Deux Anglaises et le Continent, La Femme d'à Côté et Vivement Dimanche dans de superbes copies HDR, hein, là on est sur de la 4K Ultra HD, s'intitule 5 héroïnes de François Truffaut, coffret en 4 films et qui donc est disponible chez Carlotta Film.
Je te présente la nouvelle serveuse, Charlie le pianiste.
Bonjour.
C'était Culture Prohibée, une émission réalisée en partenariat avec Les Films de la Gorgone et Radio Graphite. Culture Prohibée est disponible en balado-diffusion sur différentes plateformes. Toutes les réponses à vos questions sont sur le profil Facebook et le blog de l'émission culture-prohibée.blogspot.com. Culture Prohibée était une émission préparée et animée par votre serviteur Jérôme Potier, dit La Gorgone, assisté pour la programmation musicale d'Alexis, dit Admiral Lee. Une émission animée avec Damien Demey, dit La Bête Noire de Compiègne, Thomas Roland, dit Le Loup-Garou Picard, and the last but not the least. Je veux bien sûr parler de Léo Manien à la technique. Salut les gens, à la prochaine!